bonjour.
Alors avec vous ce soir, il y aura un primatologue, le professeur Tuberbuller, le professeur Baumgartner, qui lui est professeur de psychologie du travail et des organisations. Vous, c'est plutôt les sciences cognitives, votre domaine de prédilection. Vous vous intéressez tous les trois aux recherches menées sur les singes, c'est une collaboration interdisciplinaire.
Oui, absolument. En fait, tout ceci se passe dans le cadre du Centre des sciences cognitives. En fait, donc on est un peu tous les trois des cognitivistes en quelque sorte. Donc aujourd'hui, les sciences cognitives, c'est une manière de réinterroger un certain nombre de problèmes qui sont en fait des vieilles questions philosophiques. Et le détour par les singes, en quelque sorte, nous permet d'avoir une certaine distance par rapport à notre fonctionnement habituel, de repérer certaines différences, similarités. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est surtout les similarités qui sont sorties de toute une série de recherches qui ont été faites, notamment par le professeur Tuberbuller.
Alors justement, ces recherches, elles portent notamment sur le langage, enfin tant sur le langage que sur la façon dont les primates transmettent leurs connaissances. C'est là aussi qu'il y a des similitudes et quelque chose qui vous semble important.
Oui, parce que c'est vrai, justement par rapport à cette question philosophique de base, une des vieilles différences qu'on a souvent mentionnées est le langage. Et c'est vrai que les travaux de Klaus Tuberbuller en particulier, et d'autres de ses collègues, montrent de plus en plus que les primates non humains communiquent, et communiquent par des moyens qui sont tout de même assez sophistiqués. Notamment, les derniers travaux de Klaus Tuberbuller montrent qu'il y a quelque chose comme une syntaxe qui existe déjà du côté des primates. Donc, une possibilité de combiner les sons de différentes manières pour signifier différentes choses. Donc ce qu'on fait nous tous les jours, sans vraiment s'en apercevoir, mais qui était pendant très longtemps quelque chose qu'on pensait être réservé vraiment à notre espèce.
Donc on peut dire que ça a changé, qu'il y a eu une évolution entre la communication non-verbale et c'est devenu de la communication verbale ?
Oui, alors c'est un tout petit peu le... C'est là la question qui nous intéresse un petit peu tous, je pense. C'est qu'il y a cette espèce de passage à un moment donné... qu'on comprend pas encore tout à fait, notamment génétiquement par exemple, qu'est-ce qui s'est produit qui a permis de tout d'un coup être capable de fabriquer des nouveaux signes et de se dire collectivement bah tiens on va dire que ceci est un micro puisque j'en ai un en face de moi ou ceci est la radio etc etc et tout d'un coup de commencer à plaquer toute une série de sons sur des choses du monde et de pouvoir ensuite échanger même lorsque ces choses ne sont pas en face de soi. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est assez mystérieux. Un des paris aujourd'hui, c'est justement de passer par la communication non-verbale, et en particulier les expressifs, la communication affective, émotionnelle, et de se dire que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu comme une sorte d'écart qui s'est produit. Nos ancêtres ont dû se dire, à un moment donné, peut-être pas consciemment, tiens, si je faisais cette expression sans la ressentir, pour faire comprendre à l'autre, peut-être qu'il ne faut pas manger ceci, ou qu'il vaut mieux faire attention à cela plutôt qu'à ceci, etc. etc. Donc de jouer d'une expression peut-être qui existait déjà, prenons le cas du dégoût, et puis sans l'éprouver soi-même, l'utiliser comme un signe. Et là, on aurait le début de quelque chose comme un langage plus totalement expressif, puis c'est pas quelque chose qu'on va ressentir, mais comme un moyen de communiquer quelque chose à autrui, même si on le ressent pas directement.
Alors il y a la communication, il y a également la façon dont le savoir se transmet et dont le groupe est organisé socialement. Il y a des règles sociales également chez les grands singes.
Oui, il y a des règles très très compliquées qui exigent ce qu'on appelle avec Laurence Kaufmann une sorte de grammaire sociale. Et un des paris actuellement, c'est de se dire plutôt à nouveau de nous considérer comme une espèce complètement en dehors des autres espèces, d'essayer de passer par l'étude des primates non humains pour essayer de comprendre leurs règles de fonctionnement, d'essayer de comprendre un petit peu comment ils font sens des liens très complexes souvent qui les unissent, et en se disant tiens, on a dû hériter de cette capacité et on peut le montrer. Alors chez des jeunes enfants, c'est pour ça que moi les jeunes enfants m'intéressent, ils n'ont pas encore tout l'apprentissage qui peut venir avec le temps à la maison, à l'école, etc. Et ils sont pourtant en mesure de repérer toute une série de liens sociaux, en particulier les liens hiérarchiques, où on a pu montrer qu'ils sont effectivement très très bons à repérer, qui est le supérieur, qu'est-ce qui découle du fait qu'on a un supérieur, un inférieur par exemple.
C'est valable pour toutes les espèces de singes?
Ouais, c'est une bonne question. Ça, il faudrait demander aux spécialistes. C'est vrai qu'on a tendance, en particulier au Centre de sciences cognitives ici à Neuchâtel, à se concentrer plutôt sur des singes qui sont proches de nous, hein, vraiment les chimpanzés ou les bonobos avec Klaus Wobbler. Mais il est vrai que ce qui est assez intéressant aussi, c'est de comparer différentes espèces de singes et de comparer leur environnement. Et là, c'est une des spécialités du professeur Pchari, qui sera pas là ce soir, mais qui est dans notre faculté des sciences, ici à Neuchâtel, qui est aussi au Centre de sciences cognitives, qui lui s'intéresse beaucoup à l'impact d'un environnement sur les développements cognitifs. Et si vous imaginez justement une espèce de primate qui est peut-être moins, entre guillemets, sophistiquée par rapport à d'autres, comme les bonobos en particulier, mais qui ont une vie sociale très dense, on peut se dire, tiens, eux, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Et l'idée, c'est toujours d'essayer d'avoir un moyen d'explication qui soit le plus économique possible, plutôt que d'imaginer des théories très complexes sur la façon dont nous on fonctionnerait, d'essayer de voir comment d'autres fonctionnent dans des environnements très compliqués du point de vue social, et de se dire, tiens, pourquoi nous aussi on fonctionnerait pas de cette façon. Donc de pas ajouter de la complexité, parce qu'on a tendance à le faire une fois qu'on est adulte, et qu'on a un langage, qu'on essaie de tout interpréter, mais de se dire qu'il y a peut-être des mécanismes beaucoup plus basiques qui explique par la suite aussi peut-être certaines réactions dans le monde politique, notamment ces derniers temps, où on a tendance peut-être des fois à considérer que les gens intellectualisent beaucoup, alors qu'il peut y avoir certaines réactions qui se basent sur d'autres fonctionnements peut-être un peu plus, comment le dire, basiques.
Alors, certains scientifiques chiffrent à 5% les différences fondamentales entre le cerveau des hommes et des femmes, et puis au seulement 2% de gènes différents entre les humains et les grands primates, l'homme il est plus proche du singe que de la femme.
Ça c'est fait. Hein.
Je vous laisse responsable de vos propos.
Le chercheur en sciences cognitives que vous êtes, Fabrice Clément, comment est-ce qu'il utilise finalement les données qui sont récoltées par les primatologues? Il y a des analyses de séquences vidéo, des analyses d'enregistrement sonore. Comment se passe le travail?
Alors il y a toutes sortes de méthodes, hein, qui sont utilisées. Et je dois dire que avec une formation de base plutôt en sciences sociales, c'est assez fascinant de voir travailler les primatologues. En particulier de voir leur degré de systématicité. Il y a vraiment une notation, une prise en compte, une observation très très précise qui permet ensuite de comparer les données des primatologues des quatre coins du monde. Et ça, je dois dire que je suis très très envieux de cette capacité qu'ils ont développée, parce que dans les sciences humaines, en sociologie, en anthropologie, on a beaucoup beaucoup de peine à comparer nos données, parce que chacun vient un peu avec sa méthodologie. Donc ça, c'est une des choses. Une des autres choses qui a été élaborée, et que déjà il y a quelques temps de cela, mais que Klaus Wobbler a beaucoup utilisé par la suite, c'est d'introduire dans un environnement naturel une sorte de perturbation en quelque sorte, et d'enregistrer les réactions des participants, si vous voulez, qu'on peut observer. Alors ça a beaucoup été fait avec le son, hein, vous introduisez justement un signal d'alarme, danger par le haut, un aigle arrive, et vous observez les réactions des primates en situation. Et ça, c'est assez extraordinaire, c'est quelque chose qu'on fait assez peu dans les sciences sociales, et je trouve que c'est un peu dommage, parce que il y a vraiment de quoi apprendre en situation, dans un milieu beaucoup plus naturel qu'un laboratoire. Je dis pas que c'est simple à faire, hein, mais d'observer de façon assez systématique les réactions des gens, et de voir s'il y a des structures, des patterns qui se mettent en place. Donc c'est très 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 précieux ce point de vue-là. Et puis il y a toute la démarche comparative, où justement vous comparez avec des expériences qui peuvent être effectuées aussi bien auprès de primates non humains que de primates humains, si vous me permettez, des expériences assez similaires pour voir leur type de, entre guillemets, de performance. Et là, dans certains cas, les résultats sont très impressionnants. Par exemple, nos cousins chimpanzés, dans certaines tâches de mémorisation, sont bien meilleurs que nous, même nous adultes. Alors qu'on a tendance à penser que pour toutes les tâches cognitives, nous serons supérieurs. Et encore une fois, l'idée de la dépendance, la coévolution entre un environnement donné et des compétences cognitives, elle est très très importante, puisque dans leur environnement, par exemple, c'est très important de savoir où se trouvent certaines sources de nourriture, etc. Ils peuvent ensuite utiliser ces compétences pour certaines tâches dites cognitives un peu froides, quoi. Donc ce fait de pouvoir recruter ces capacités qui ont émergé dans un certain environnement, de les effectuer en laboratoire, a parfois des résultats très surprenants. Et c'est toutes les découvertes récentes sur le fait que les primates ont quelque chose comme une théorie de l'esprit ou un début de théorie de l'esprit, la faculté de se représenter les états mentaux des autres, etc., qui sont issus de ces démarches comparatives où, très souvent, on compare des enfants, à des très jeunes enfants souvent, à des primates non humains, ce qui est pas tout à fait égalitaire, je dirais, puisqu'on devrait comparer soit des bébés, soit des adultes, enfin bref, et qui montre justement que il y a des similarités souvent assez surprenantes et des capacités qu'on pensait pas être là, qui en fait sont démontrées et qu'on peut mesurer de façon assez précise.
Alors justement, plus les recherches avancent, plus on se rend compte de la proximité entre l'homme et le singe. Quelles sont les différences majeures quand même qui restent? Par exemple, le sens de l'humour, est-ce que c'est le rire, c'est le propre de l'homme?
Alors oui, le rire peut-être reste plus, je dirais, en amont peut-être du rire. Si vous réfléchissez à cette capacité et aux événements qui nous font rire, c'est souvent lié à une forme de décalage, en quelque sorte. On s'attend à quelque chose, et quelque chose d'autre, de totalement un peu surprenant apparaît. Ce quelque chose, il n'est pas dangereux. Donc, y a, certaines personnes pensent justement que le rire, c'est comme une sorte de cri de soulagement, en quelque sorte. Donc, c'est pas moi qui tombe, c'est l'autre, il se fait pas trop mal. Il y a quelque chose de l'ordre du comique, comme ça, qui est lié à une rupture d'attente. Personnellement, c'est ce que je vais essayer de défendre un peu ce soir. Je pense que maintenant qu'on a essayé à peu près toutes les différences spécifiques, le langage, etc., la morale, la conscience et autres, je pense que quand même ce qui est assez de particulier dans notre espèce, c'est cette espèce de possibilité de prendre un recul, hein, de plus être engagé immédiatement dans une action ici et maintenant. Comme on le disait tout à l'heure pour les expressions, hein, vous avez une émotion, vous l'exprimez, et puis ça communique d'une certaine façon quelque chose, mais de pouvoir avoir un jeu, en quelque sorte, comme un mécanisme qui est un jeu, et de s'infiltrer dans ce jeu, de commencer à dire, tiens, et si on faisait ceci, et si on faisait plutôt cela, et de commencer à simuler des possibles, en quelque sorte. Et j'aurais plutôt tendance à penser aujourd'hui que ce qui s'est produit il y a quelques millions d'années, c'est tout d'un coup ce potentiel pour mettre une forme de distance mentale entre ce qu'on est en train de faire, de vivre, et ce qui pourrait être le cas en quelque sorte.
La discussion se poursuit ce soir, professeur Clément, pendant ce café scientifique à l'université de Neuchâtel, les singes à la lisière de l'humanité. On mettra tous les détails sur la page de Format 3. On vous remercie beaucoup d'être venu partager ces quelques instants avec nous ce matin. Belle journée.